Quand j'étais petit, il m'arrivait de faire du vélo et parfois je tombais et je me faisais mal, je m'égratignais le genou, le coude ou ailleurs. Et alors ce que je faisais souvent, c'est que je courais à la maison, à moitié honteux, à moitié fier, en pleurant. J'allais vers ma maman et puis elle me prenait dans ses bras, elle soufflait sur ma blessure et instantanément j'avais plus mal. Et ma prière ce matin, c'était que Dieu puisse aussi souffler sur ses grands brûlés, sur ses victimes. Il est infiniment plus puissant que ma maman et je sais qu'il peut les soulager. Je priais aussi pour qu'il puisse souffler dans leur cœur, spirituellement, pour apaiser les âmes et réveiller son esprit. Je m'excuse, je suis un peu touché par cette prière. Il faut que je me ressaisisse. Ce matin, j'avais envie de vous parler du jeûne d'Esther. C'est une histoire que je trouve magnifique. Et je pense que pour ce premier culte de l'année, ça vaut la peine qu'on se replonge un petit peu dans cette histoire magnifique de la reine Esther, qui commence orpheline, qui termine reine et qui réussit à sauver son peuple. Et pourquoi le jeûne? Peut-être que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais je vais faire un rappel. En début d'année, la deuxième semaine de l'année en général, l'ESCALE a pour habitude de faire un jeûne collectif, en communauté. Un jeûne qui commence lundi, qui termine vendredi soir, où on rompt le jeûne ensemble. Et c'est pour ça que j'ai trouvé bon de parler d'un exemple biblique de jeûne pour comprendre, trouver, déceler des choses, des enseignements qui pourront nous aider pendant cette semaine de jeûne collectif. Alors mon objectif ce matin, il est double. C'est que chacun d'entre vous, premièrement, vous puissiez apprendre quelque chose sur le jeûne, ou en tout cas le jeûne biblique. Et mon deuxième objectif, c'est de vous donner envie de jeûner si jamais vous n'étiez pas encore convaincu. Alors j'espère que vous serez réceptifs, ouverts. J'ai beaucoup de choses à dire et je me réjouis vraiment de faire ça. Alors, c'est parti. Premièrement, je vais un tout petit peu parler du livre d'Esther pour resituer le contexte. Donc, le livre, il se déroule après l'exil de Babylone, mais on a besoin de parler un petit peu de l'exil. L'exil, c'est simplement lorsque le pays de Juda, le royaume de Juda, a été conquis par les Babyloniens. Il y a beaucoup de Juifs qui ont été déportés en terre étrangère à Babylone. D'accord? Ensuite, il y a eu la chute de Babylone suite aux attaques répétées des Mèdes et des Perses. Donc, c'est les Perses qui deviennent les champions de la région, les dominateurs. Et il y a une partie des exilés qui sont dispersés dans tout l'Empire perse. En 538 avant Jésus-Christ, il y a un roi perse, Cyrus II, qui autorise les Juifs à revenir à Jérusalem et en Juda. Mais il n'y a pas tous les Juifs qui vont revenir. Il y en a une partie qui vont rester, ce qu'on appelle la diaspora, ils vont rester dans l'Empire perse de manière générale. Notre histoire, elle se déroule en 483 avant Jésus-Christ. Elle se passe à Suse, la capitale de l'Empire perse. C'est à plusieurs milliers de kilomètres de Jérusalem. Et on va suivre l'histoire d'Esther. Alors Esther, qui est cette femme? C'est une orpheline qui a été élevée par son cousin Mardochée. Ils habitent ensemble dans la capitale, Suse. Son prénom en hébreu, c'est pas Esther, c'est Hadassa. Ça signifie myrte. C'est une plante. Et puis en hébreu, Esther, ça signifie étoile, ou plus largement luminaire, lampe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans le terme étoile, il y a comme quelque chose de caché. Ce n'est pas une lumière qui est aussi visible que, par exemple, celle de la lune, ou celle du soleil, ou celle d'un flambeau. C'est quelque chose d'un peu caché. Et ça va avoir un sens important dans l'histoire. Et enfin, Esther devient reine. Elle commence orpheline, elle devient reine. C'est suite à un concours de circonstances un peu rocambolesque. Il y a la reine Vashti qui est destituée parce qu'elle a refusé d'obéir au roi. Alors il la destitue et puis il choisit de trouver une nouvelle reine. Il organise un concours et un peu comme par hasard, c'est Esther qui gagne, ce qui fait qu'elle devient reine. C'est une ascension assez fulgurante, c'est le moins qu'on puisse dire. La suite du livre, c'est la crise, le rebondissement. Il y a un homme qui s'appelle Aman, Aman l'Agagite. Alors, c'est un peu bizarre à dire, Agagite, ça veut dire simplement qu'il est descendant d'Agag. C'est vrai que c'est encore plus bizarre à dire, Agag. Agag, c'était un roi amalécite. Et les amalécites, vous les connaissez peut-être, ce sont les ennemis jurés des juifs. Et Agag, en fait, si on remonte un petit peu et qu'on va lire dans le livre de 1 Samuel, on voit qu'en fait, c'est un roi qui n'aurait pas dû vivre parce qu'il a été sauvé par la clémence de Saül alors que Saül avait demandé à ce qu'il soit exécuté. Bref, Aman, descendant d'Agag, c'est un ministre et il va demander à ce que tous ceux qui le croisent se prosternent devant lui. Et Mardoché, qui était aussi à la cour du roi, il refuse de se prosterner devant Aman. Et oui, évidemment, quand on est juif, on se prosterne seulement devant Dieu. Pas devant un homme, pas devant une statue, pas devant quoi que ce soit d'autre, seulement devant Dieu. Et Mardoché, il a la force de caractère nécessaire pour refuser de plier à Aman, malgré qu'Aman soit très très puissant. Alors Aman va comploter. Il est tellement heurté dans son ego. Il a tellement la rage que ce juif refuse de se prosterner. Sûrement qu'il doit connaître quand même son histoire familiale. Il a du passif avec les juifs. Et bien il va se mettre à comploter. Il va faire signer au roi Assuérus un décret qui va exiger l'extermination du peuple juif dans tout l'Empire perse. Alors l'Empire perse, ce n'est pas juste équivalent à l'Iran actuel. C'est un empire gigantesque qui s'étend de l'Afghanistan jusqu'à la Turquie et jusqu'à l'Égypte. Donc en gros, à peu près tous les juifs du monde. Le jour est décidé dans le décret, c'est le 13e jour du 12e mois de l'année en cours. Et puis le décret, il est promulgué. Et il y a une loi particulière, qu'on appelle la loi des Mèdes et des Perses, qui dit que lorsqu'un décret royal est promulgué, il ne peut pas être annulé. Ça, c'est malin de la part d'Aman. Il a bien joué. Mais c'est là qu'on arrive, qu'on revient à Esther et sa destinée exceptionnelle. Le livre d'Esther, il est particulier à plusieurs égards. Et une des choses qui m'a quand même toujours un peu marqué et interrogé, c'est que c'est le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas le nom de Dieu. Vous pouvez chercher. Il n'y a pas une seule fois référence ni à Dieu, Elohim, Rapha, Jiré, Yahweh, il n'y a pas de référence explicite à Dieu. Alors pourquoi est-ce que ce livre est dans la Bible ? Alors évidemment parce que ça nous raconte l'histoire du peuple juif, une partie de son histoire, mais aussi parce que Dieu, parfois, se révèle de manière subtile. Et dans le livre d'Esther, si on cherche un peu, on voit Dieu partout. La destinée d'Esther, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui planifie les choses depuis qu'elle est toute petite. Elle ne le voit pas. Mardoché non plus. C'est que plus tard dans l'histoire qu'ils vont se rendre compte qu'en fait Dieu a orchestré les choses dans le décor, depuis les coulisses, pour faire en sorte que Esther puisse sauver son peuple. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à les sortir. Sinon, je vous invite à sortir vos téléphones, ouvrir votre application Bible. Si vous n'avez pas informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres. Puis, il sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qu'il se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac. mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Hatak, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Le deuil. Lorsque le peuple apprend la nouvelle, il est en deuil. Et l'exemple tout particulier de ce deuil, c'est Mardoché, qui semble avoir une réaction vraiment forte, qui sort du cœur, presque violente. Il déchire ses vêtements. Il va crier dans toute la ville sa douleur. Si Mardoché a une réaction qui est si forte, c'est parce qu'il sait qu'il est en partie responsable de ce qu'il se passe. Il aurait suffi qu'il plie le genou, comme les autres, et Haman n'aurait pas fait ce plan d'extermination. Donc maintenant, il prend conscience que sur ses épaules, il porte la responsabilité de la potentielle extermination du peuple. Et comme il était à la cour du roi, il sait évidemment que ce décret ne peut pas être annulé. Donc il a une réaction particulièrement forte. Alors le deuil, dans la Bible, il est souvent vécu un peu de la même manière. Ce n'est pas que dans la Bible d'ailleurs, c'est dans quasiment tous les peuples du Proche-Orient ancien. On retrouve des signes comme le fait de pleurer, de s'habiller d'un sac, de se couvrir de cendres, de déchirer ses vêtements. Ce sont des signes extérieurs du deuil. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans nos sociétés, la plupart de ces choses, on ne les fait pas. On a d'autres manières de montrer le deuil. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, qui se retrouve très systématiquement, pas systématiquement, mais très souvent, mais pas toujours, c'est également le jeûne. Souvent dans la Bible, lors d'un grand deuil, les gens jeûnent. Et ça, en fait, c'est une réaction physique, physiologique. Moi, il y a quelques années, j'ai vécu mon premier drame amoureux. Je me suis fait un peu larguer par ma petite amie de l'époque et c'était terrible. Terrible. Pendant plusieurs jours, j'ai pas mangé. C'est pas que j'avais envie de jeûner. Vraiment pas. Mais j'avais juste pas faim, quoi. C'était tellement terrible. Donc c'est une réaction qui est naturelle. Et j'aimerais également vous partager un peu de savoir que j'ai pu trouver au fur et à mesure de mes recherches. J'espère que ça vous intéressera. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit « sac » en hébreu ? Vous savez, c'est bizarre, on dit « s'habille de sac ». Vous savez comment on dit « sac » en hébreu ? On dit « sac ». Voilà, comme ça, si vous devez connaître que deux mots hébreux, trois, shalom, alléluia et sac. Parfait. Ce que fait Mardoché, c'est un signe naturel de deuil, mais c'est aussi un signe de contestation et de manifestation. Il va dans la rue, il manifeste ce qu'il se passe, il va sur la cour qui est devant la porte du palais pour qu'on le voie, pour que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que dans la culture de l'honneur orientale dans laquelle ils étaient, c'est particulièrement déshonorant de s'habiller de sac, de se couvrir de cendres, de crier, de déchirer ses vêtements. C'est-à-dire que Mardoché, il prend la décision de se déshonorer pour manifester quelque chose de plus grand. Et je veux juste également notifier quelque chose. Ici, on voit, j'ai mis en vert, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle n'est pas bouleversée de l'extermination des Juifs. Elle n'est pas au courant, elle. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est bouleversée d'apprendre de ce que fait Mardoché. C'est ça qui la bouleverse, premièrement. Et ensuite, on va continuer à lire, elle va apprendre pourquoi Mardoché se comporte comme ça. Ça, j'ai mis une image, Job en deuil. Je trouve que ça exprime ce que ça peut être des fois la force du deuil. On va revenir sur ça après. Hatak rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée : tous les serviteurs du roi et la population de ses provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict : la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre : ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée : va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Waouh. Donc là, Esther comprend, grâce au messager, l'eunuque Attac, qui lui explique ce qui est en train de se passer, pourquoi Mardochée était en deuil. Mardochée demande à Esther d'intercéder auprès du roi. Étant donné qu'elle est reine, elle a quand même une position un peu particulière. Mais Esther lui répond que ce n'est pas trop possible, parce qu'elle n'a pas été conviée par le roi depuis 1 mois. Et si elle décide de se présenter devant lui, c'était un peu le délire des rois perses à l'époque, hein, c'est lui qui choisit s'il a envie de te voir. Si tu viens le voir mais qu'il n'a pas demandé, il te tue. Ah non, mais c'est même pas une histoire de mauvais regard ou de mal se tenir. Juste s'il te voit et qu'il ne t'a pas demandé, t'es mort. Donc Esther dit : désolé, je ne peux pas. Puis là, Mardochée, il insiste. Il lui dit : non. Là, c'est pas juste une histoire de toi qui meurs ou pas, c'est le peuple juif qui est en jeu. Pense pas que parce que tu es la reine, tu vas être épargnée par l'édit d'Aman. Donc Mardochée l'encourage. Esther se résigne et elle commande un jeûne collectif, universel. Tout le monde doit jeûner, 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. C'est ce qu'on appelle un jeûne total, un jeûne sec. Et Mardochée accepte. Dernier verset, verset 17, Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. C'est intéressant, ça crée vraiment un contraste avec le début du livre d'Esther où c'est toujours Mardochée qui ordonne à Esther de faire les choses. Et là maintenant on se retrouve dans la situation inverse où c'est plus Mardochée qui est l'aîné, qui est l'homme, qui est en position de force, c'est Esther la reine. Donc c'est elle qui ordonne. Alors le jeûne sec, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour le peuple des Juifs ? Ou est-ce que c'est une erreur d'Esther de demander un jeûne ? La question que je vous pose. Alors, il y a Dieu qui révèle quelque chose à Ésaïe, qui dit à peu près la même question que je vous ai posée. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? La question est posée. Dieu pose la question. Est-ce qu'il faut vraiment que tu t'humilies et que tu jeûnes pour que ça me fasse plaisir ? Alors, avant de donner la réponse, je veux un peu plus donner quelques informations sur ce jeûne collectif d'Esther. Ça me semble crucial. Donc on a dit c'est un jeûne sec pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits. À savoir que le comptage est un peu différent de ce qu'on fait. C'est comme les 3 jours de Jésus dans le tombeau. En fait, c'est plus 1 jour et demi. C'est qu'ils ont un comptage inclusif. Quoi qu'il en soit, 3 jours et 3 nuits, c'est extrêmement rigoureux. Ne pas manger à la limite, ça va. A priori, on va le faire. Ne pas boire, c'est difficile. Hein. On est à Suse, c'est pas loin du désert. Je n'ai pas regardé à quel mois ça se déroulait, mais c'est compliqué. D'autant plus qu'eux, ils ne pouvaient pas juste prendre des jours de vacances. Hein. Donc très, très dur. Quelque chose aussi qui est essentiel dans ce texte, c'est que le jeûne est accompagné de la prière et de l'intercession. J'ai mis le terme, il est concomitant. On n'imagine pas l'un sans l'autre. On jeûne et on intercède. C'est quelque chose qui est essentiel. Un jeûne sans prière, je suis désolé de le dire, mais c'est juste une grève de la faim. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le fait de faire souffrir le corps, ça permet que son esprit se concentre sur l'essentiel. C'est ça l'idée qui est derrière le jeûne. On se prive de quelque chose qui est essentiel pour se concentrer sur quelque chose qui est encore plus essentiel. C'est Dieu, sa présence et sa puissance, sa délivrance dans le cas d'Esther. On abandonne tout ce qui n'est pas forcément vital dans l'instant pour se comporter sur la seule et unique chose qui compte vraiment, et c'est Dieu. C'est pour ça qu'on jeûne, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas un acte rituel. En tout cas, j'espère qu'on jeûne pas par acte rituel. Et encore quelque chose d'autre que je veux vraiment relever, c'est qu'il y a une solidarité totale parmi le peuple. Ils étaient sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers à Suse, et ils vont tous jeûner. Tout le peuple. Il y a également les servantes d'Esther qui jeûnent. De mémoire, il y a 7 servantes. Ces servantes ne sont pas juives. C'est des servantes comme de l'Empire perse, de religion persane. Elles se mettent à jeûner aussi par solidarité. Esther, qui est la reine, jeûne aussi. Tout le monde jeûne. Belle solidarité. Moi, ça m'a touché. Alors, quels étaient les objectifs du jeûne d'Esther? 2 principalement. Premièrement, la préparation. Esther se prépare à vivre une épreuve particulièrement difficile. Se présenter devant le roi sans avoir été conviée. Donc, a priori, elle est censée mourir. Donc, vous vous rappelez de Jésus qui se prépare à la mort, à la crucifixion, au jardin de Gethsémané. Il se prépare en priant. Il y a des gouttes de sang qui perlent à la place de sa sueur. On est dans ce genre de préparation-là. On se prépare à la mort. Et deuxièmement, une mobilisation. Elle se prépare, oui, mais aussi elle mobilise. Elle sait, Esther, qu'il y a un monde spirituel qui est réel et qu'il y a des combats qui se passent en coulisses. Et la prière, l'intercession, le jeûne, ça donne une puissance spirituelle qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, Jésus va le dire. Il y a un certain genre de démon qui ne part que par le jeûne et la prière. Donc, il y a une mobilisation particulière. Alors maintenant, qu'est-ce que le jeûne? Parce que j'en parle depuis quelques minutes, mais ça me semble important d'en apprendre plus sur le jeûne. Qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà dans la Bible, alors moi, il y a quelques années, je jeûnais pas beaucoup. D'ailleurs, je jeûne pas non plus beaucoup aujourd'hui. Mais il faudrait que je jeûne plus. Il y a quelques années, en fait, je me demandais si le jeûne était vraiment biblique. Vous avez vu la parole d'Ésaïe, j'ai l'impression que c'est des questions rhétoriques qui invitent plutôt à un non. Non, ce n'est pas le jeûne qui est important. Bon, c'est quand même une pratique qui est universelle dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y a Jésus, la loi qui prescrit le jeûne seulement une fois par an pour Yom Kippour, donc c'est-à-dire que textuellement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul jeûne par an qui est requis, pas plus. Mais dans la tradition, il y a de nombreux jeûnes qui sont institués après l'exil. C'est des jeûnes commémoratifs pour se rappeler d'un événement traumatique, un deuil. J'ai mis quelques exemples bibliques de jeûne. Alors, ce n'est pas exhaustif. Il y en a d'autres encore que j'ai sûrement loupé. Mais le jeûne, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup dans la Bible. Beaucoup plus que ce que j'avais l'impression de connaître et de croire. Alors, c'est vrai, moins dans le Nouveau Testament, mais ça se fait quand même. Notamment lorsqu'un ancien est établi sur une église, on voit que Paul et Barnabas jeûnent et prient pour savoir s'il faut ou pas établir l'ancien. Et puis, le jeûne au temps de Jésus. Alors ça m'intéressait beaucoup, pour voir si c'était simplement une pratique juive ou si on pouvait vraiment se l'approprier en tant que chrétien. Et en fait, ce qui se passe, c'est une inflation des pratiques de jeûne. Au temps de Jésus, les pharisiens jeûnent deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Et ouais. Et ça bug un peu. Risque de jeûne uniquement rituel. Ouais. En fait, les pharisiens, d'ailleurs c'est écrit, ils jeûnent pour qu'on les voit. C'est un jeûne qui est vraiment très ritualisé et on peut le deviner au travers du texte, pas vraiment spirituel. Et ça, c'est un risque. C'est un peu ce que j'évoquais plus tôt, c'est que tout d'un coup, notre jeûne devienne simplement un acte mécanique. Et je vous lis cette citation que j'ai trouvée très intéressante. « Au temps de Christ, le jeûne avait atteint en importance des proportions un peu trop colossales. À défaut de piété, on avait cherché la religion dans les pratiques et dans le jeûne. » Ah, le jeûne, c'est une bonne manière de pouvoir sembler très pieux, d'être très religieux, sans vraiment y mettre le cœur. C'est toujours plus désagréable quand on y met le cœur, hein, un peu plus engageant, personnellement. Et alors, voici la réponse à la question de Dieu, c'est les deux versets suivants que ceux que je vous ai montrés avant, et c'est Dieu qui parle. « Voici le genre de jeûne que je préconise. » Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Alors là, Dieu, il est clair. Le vrai jeûne, c'est avant tout un jeûne d'attitude. C'est un jeûne de cœur. C'est un engagement personnel, de comportement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de jeûner ? Moi, je suis un peu perdu, parce que quand même, Jésus, il dit, pas explicitement qu'on doit jeûner, mais il dit que les apôtres, ils vont devoir jeûner, quand même. Il y a les apôtres Paul et Barnabas qui jeûnent. Il y a... Non, mais quand même, c'est bizarre. Lui-même, il a jeûné 40 jours dans le désert. Attends. Je crois que je me suis perdu dans mes notes, là. On va essayer de synthétiser tout ça, d'accord ? Donc, la distinction fondamentale, c'est le jeûne qui est un engagement rituel ou un engagement spirituel. Si on est dans un engagement rituel, c'est un rituel qui est vide, qui est mécanique, comme les pharisiens pouvaient le faire, alors on risque de faire perdre tout le sens à ce qu'est le jeûne, fondamentalement, comme le rappelle Ésaïe. Il faut avoir un engagement spirituel, un vrai jeûne qui est accompagné de justice, de compassion, d'humilité, une posture spirituelle intense et sincère. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas soit le jeûne, soit un engagement spirituel et sincère. C'est les deux, l'un avec l'autre. C'est ça le vrai jeûne. Et parfois, c'est un peu trop facile pour nous de simplement nous apitoyer sur notre estomac qui souffre, de dire « Ah, j'ai tellement faim, mais qu'est-ce que je suis spirituel ?» Et en fait, finalement, on loupe notre jeûne. Louper son jeûne, c'est avoir faim, mais ne pas prier, mais ne pas lire la Bible, mais ne pas faire des efforts pour se montrer bien aimant avec sa famille, ne pas donner à celui qui est dans le besoin, ne pas être dans la bienveillance. Ça, c'est le tutoriel comment louper son jeûne. Franchement, c'est dommage. Alors, on va un peu nouer la gerbe. Le thème cette année pour la semaine de jeûne, c'est préparer pour briller. préparé au participe passé, pluriel. Ce qu'on veut dire, c'est que nous voulons être préparés pour ensuite pouvoir briller. Bah, je vous vois, vous êtes circonspect là. Ça a l'air compliqué ? Non, je suis d'accord. Alors, comment se préparer ? On va tirer une leçon de l'histoire du jeûne d'Esther. Premièrement, soyons dans une mentalité de préparation intentionnelle. Une nouvelle année débute. C'est peut-être juste une année de plus, pour beaucoup d'entre nous, ou ça peut être un temps particulier, une année particulière, charnière, peut-être dans ta vie, et sûrement, en tout cas je le prie, dans la vie de l'Église. L'Église de l'Escale, bien sûr, mais l'Église aussi, c'est-à-dire le corps de Christ. Moi, je prie pour un réveil mondial. Bon, on va commencer par Yverdon, mais un réveil, un changement. Donc, soyons dans cette mentalité de préparation intentionnelle. On veut se préparer aux événements qui vont arriver et on veut être prêt à recevoir la grâce de Dieu lorsqu'elle va tomber. Préparons-nous. Esther, elle se prépare à la mort. Mais elle s'attend à recevoir la grâce du roi qui va lui tendre le sceptre d'or, signe que le roi accepte son entrevue. Moi, je ne vous invite pas à vous préparer à la mort, mais préparez-vous à la vie et attendez-vous à ce que Dieu agisse. Et puis, bien sûr, faisons ça de manière collective, en communauté. C'est pour ça qu'on le fait tous ensemble. C'est très bien le jeûne personnel, et Jésus l'a fait, et beaucoup dans la Bible ont fait des jeûnes personnels. Mais le jeûne collectif, c'est encore quelque chose d'autre, c'est une autre puissance. Alors profitons de cette occasion en début d'année pour jeûner ensemble. La semaine de jeûne, elle débute dès demain, demain matin. Si vous êtes tellement motivé par ce que je vous ai raconté, vous pouvez commencer à jeûner maintenant. Et elle se termine vendredi. Et faudra que tu me corriges si je me trompe, Raphaëlle, mais il me semble que de lundi à vendredi, trois fois par jour, matin, midi et soir, il y a des temps de réunion optionnels à l'église où on peut prier ensemble. C'est correct ? C'est correct. Quelle est la recette pour réussir son jeûne ? Une sincérité du cœur qui est profonde et une unité collective. C'est pour ça que je vous invite à participer aux réunions matin, midi et soir. Vous choisissez une des réunions ou plusieurs dans la semaine. Vous venez, comme ça on peut s'unir non seulement dans le jeûne, mais aussi dans la prière et l'intercession physiquement. Et puis, concrètement, je vous ai donné peut-être quelques points qui m'ont semblé intéressants. Comprendre le jeûne comme une discipline de dépendance à Dieu, faire des prières d'intercession pour les projets de l'Église, avoir une véritable unité communautaire, avoir également de l'humilité, c'est-à-dire reconnaître l'insuffisance de nos forces. C'est pour ça qu'on jeûne, c'est que nous, on n'a pas assez de force pour réussir les choses. C'est pour ça qu'on s'en remet à Dieu. Et puis la consécration, se mettre à la disposition de Dieu. Alors, deux écueils à éviter. Premièrement, le manque de spiritualité, c'est-à-dire simplement faire un jeûne physique, mais sans fondement spirituel, ce qui mène à l'épuisement et souvent à l'échec. Et l'autre écueil, c'est le manque d'action. Être très spirituel, faire un jeûne parfait, mais ensuite ne pas se mettre à l'action une fois que la préparation elle est faite. C'est le préparer pour préparer, au lieu du préparer pour briller. Et puis, je rappelle, comme Esther, il faut trouver l'équilibre entre la préparation et l'action obéissante. Esther, elle se prépare en jeûnant, et une fois que le jeûne est terminé, elle va vers le roi. Si elle n'était pas allée vers le roi, son jeûne n'y aurait pas servi à grand-chose. Donc c'est la mise en action. Alors, pourquoi briller ? Deuxième question, préparer pour briller, pourquoi on brille ? C'est la mission de l'Église, on est appelé à briller comme des flambeaux dans le monde, et on ne veut pas être caché, n'est-ce pas ? Donc n'ayons pas honte de briller partout où on est. Il faut qu'on brille authentiquement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire semblant d'être plus brillant que ce qu'on est vraiment. Briller, ça ne veut pas dire essayer de gommer toutes ces petites imperfections et tous ces défauts. voire même peut-être un petit peu mentir en enjolivant les choses, en enjolivant qu'est-ce que c'est l'Église, en enjolivant qui on est, notre vie, notre comportement. Il y a Jésus qui nous rappelle qu'il faut nettoyer l'intérieur de notre coupe avant de nettoyer l'extérieur. Alors oui, brillons, mais de manière authentique. Préparons-nous, et puis ouais, Esther a brillé parce qu'elle s'était préparée. Et je vais gentiment terminer par poser cette question. Est-ce que le jeûne, il est essentiel ou est-ce qu'il est optionnel ? Peut-être certains d'entre vous vous dites « Oh purée, là, là, il me met vraiment la pression, Mathias, là, si je jeûne pas. » Alors, Jésus ne donne pas l'ordre explicitement de jeûner. D'ailleurs, les disciples de Jésus sont repris. On leur dit « Pourquoi vous, vous jeûnez pas ?» Alors que les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils jeûnent tout le temps. Et les pharisiens, même, ils jeûnent, ils sont plus spirituels. Et Jésus dit, non, c'est pas l'heure maintenant de jeûner, mais plus tard ils le feront. Je paraphrase, hein, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc il ne donne pas l'ordre explicitement. Mais par contre, il précise qu'il y a des réalités spirituelles et que le jeûne, c'est un bon moyen pour comprendre et combattre ces réalités spirituelles. Donc il ne faut pas qu'on soit dans une obligation légaliste, on n'est pas obligé de jeûner, mais en même temps, c'est fortement recommandé. Donc, pour conclure, le jeûne n'est jamais obligatoire pour une personne, mais il n'est pas raisonnable de le négliger en tant que communauté. C'est donc une pratique optionnelle au niveau personnel, obligatoire au niveau collectif et essentielle dans les deux cas. J'espère que ça résume bien. Vous pouvez relire, c'est peut-être un peu... C'est une phrase alambiquée, peut-être ? Ce que je veux dire, c'est que si toi, tu ne peux pas jeûner ou que tu ne peux pas faire le jeûne que tu voudrais, ce n'est pas grave. Parce que l'important, d'abord, et Esaïe nous le rappelle, c'est l'attitude de cœur. Maintenant, je crois que je l'ai écrit ici. Non, je l'ai écrit plus loin, ce n'est pas grave. Si tu te caches derrière des excuses un petit peu faciles pour avoir un jeûne plus facile, c'est très bien. Mais il faut aussi s'attendre à avoir des révélations et Dieu qui se bouge un petit peu moins. On n'est pas dans un système de prospérité où plus on va souffrir, plus Dieu va répondre. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une notion de dévotion, d'abnégation. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui renoncent à eux-mêmes, à leur célébrité, à leur richesse, à beaucoup de choses pour suivre Dieu. Parce que Dieu est le plus important. Et quand on renonce à ces choses-là, on montre à Dieu qu'on a compris, non seulement dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, que c'est lui le centre. Et le jeûne, c'est tellement, tellement utile pour nous faire comprendre des choses, pour faire passer la compréhension de la tête au cœur. Alors oui, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêt à renoncer un peu à votre confort pour voir Dieu agir cette année ? Ensemble, est-ce que vous êtes prêt à renoncer un peu à votre confort pour voir Dieu agir cette année ? Amen ! Ne pas culpabiliser pour qui ne peut pas, mais ne pas non plus se cacher derrière des excuses faciles, chacun examine son cœur devant Dieu. Alors, appel à l'action. Détermine quel type de jeûne tu veux faire cette semaine. Je donne juste 2-3 idées. Type de jeûne, jeûne complet, sans eau, sans nourriture. Jeûne à l'eau, c'est-à-dire vous buvez que de l'eau. Jeûne de nourriture, mais vous autorisez des boissons. Ou alors jeûne seulement partiel, c'est-à-dire vous arrêtez seulement un certain type de nourriture. Par exemple, pas de viande, pas de produits laitiers, pas de sucre. Et puis je rajoute une catégorie que j'encourage tout le monde, jeûne de réseaux sociaux, jeûne de Netflix, jeûne de jeux vidéo. Parce que quand on a faim, c'est tellement mieux de se mettre devant une série Netflix plutôt que de se mettre devant l'Ecclésiaste. Remplace les temps de repas par de la prière ou de la lecture biblique. On veut prier spécifiquement pour Payerne. Il y a une implantation à Payerne cette année et on veut que cette implantation, elle naisse du jeûne et de la prière. On a besoin, ensemble, en tant que communauté, de se positionner. On peut prier pour la direction de l'Église en 2026 et bien sûr pour le réveil spirituel de la communauté. L'attitude de cœur, je reviens, mais je répète les choses. Humilité, foi, obéissance, unité. Essayons de garder ça. Soyons dans l'humilité. Ayons foi que Dieu va agir. Soyons obéissants. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Et puis, soyons dans l'unité. On jeûne tous ensemble, aussi parce que c'est plus facile de tous ensemble se dire que l'autre, il est dans la même situation que moi. Il passe devant le McDo à Enchamar et il se dit « Oh là là !» Soyons dans l'unité. Et vision finale. Ça, c'est ce que moi, j'aimerais pouvoir observer personnellement, humblement, de là où je suis. Vendredi prochain, j'aimerais voir une église qui est préparée spirituellement à vivre ce qu'on doit vivre en 2026. Une église qui rayonne de la présence de Dieu. Et ça se sent. Ah, quand les gens ils sont pleins de la présence de Dieu, ça se sent. Un impact transformateur sur la région, en particulier pour Payerne. Et qu'à Payerne, on puisse voir cette année une nouvelle communauté qui émerge. Des gens qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent. Ce n'est pas nous qui les amenons, c'est Dieu, le vrai, le bon berger, qui amène les brebis, j'allais dire à l'abattoir, qui amène les brebis dans l'église, dans son enclos. Voilà, ma conclusion pour aujourd'hui, ce sera, j'aimerais que les générations futures, elles regardent en arrière, à Payerne, et elles se disent, en 2026, ils se sont consacrés et Dieu a agi. J'aimerais vraiment que ça puisse être un palier majeur dans l'histoire de l'Église, l'Église avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ. Et puis au niveau local de Payerne, évidemment. Je vous laisse avec ce verset. Peut-être qu'il vous parlera, moi il me parle beaucoup. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Je ne sais pas par quelles circonstances vous êtes venu ici ce matin ou dans l'église de l'Escale, mais ce que j'ai vraiment envie de croire, c'est que ce n'est pas pour rien que Dieu il est aux manettes, il est aux commandes, et que c'est pour un temps particulier qu'on va jeûner cette semaine. Ce n'est pas pour juste un temps de plus, c'est pour un temps particulier. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu prends tellement soin de nous en tant que communauté. Merci parce que tu nous donnes le jeûne comme outil spirituel pour nous préparer à ce qu'on va vivre. Seigneur, tu nous fais tellement de promesses dans ta parole. Tu nous dis que quand on recherche ton cœur, quand on recherche ta volonté, Seigneur, tu réponds. Et j'ai envie de le croire ce matin, j'ai envie de le croire cette année. Seigneur, je te prie que cette communauté que nous formons à l'Église évangélique de l'Escale, que nous puissions nous unir dans le jeûne, Seigneur, que nous puissions vraiment chercher ton cœur, chercher ta volonté, que ton Saint-Esprit nous habite, et que tous ensemble nous puissions discerner ce que tu nous offres pour cette année 2026, Seigneur. Je te prie que Payerne puisse être bénie par nos prières, que cette ville, cette grande ville où il n'y a pas beaucoup d'églises évangéliques, puisse vraiment être prête à accueillir comme un nid cette communauté que nous allons implanter. Que nous puissions rayonner authentiquement avec nos défauts, Seigneur, mais ta perfection. Seigneur, je te prie de bénir chacun, que le jeûne ne soit pas une épreuve traumatisante, que le jeûne ne fasse pas mal, mais qu'au contraire, ce soit une libération des choses qui parfois nous enchaînent, des addictions, notre mauvais caractère. Seigneur, viens nous libérer. On a besoin de toi pour ça. Et que les études bibliques, les temps de prière, les échanges bienveillants puissent venir renouveler qui nous sommes personnellement et renouveler cette communauté de l'escale, que dans une semaine, nous puissions vivre un culte qui est tellement sanctifié parce qu'on s'est préparé à ça, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.